C'est un podcast Vivre FM.
Anne-Laure Buffet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute formatrice et spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et conjugales avec ce livre « Tous toxiques, tous victimes » aux éditions de l'Observatoire. Vous avez voulu montrer qu'il y a un clivage, qu'il y a un problème dans le fait de se montrer, de se définir comme victime ou toxique, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer exactement ?
J'ai surtout voulu montrer qu'on n'était plus du tout dans la nuance de rien et qu'effectivement s'il faut se définir, et je crois que c'est un besoin identitaire très présent dans notre société, le besoin d'être défini comme étant ceci ou cela, il n'y a pas tellement de juste milieu entre le fait d'être toxique ou victime. Donc on est soit l'un, soit l'autre, et il semble très difficile de pouvoir comprendre qu'on puisse être à la fois toxique et victime, ou à la fois victime et toxique, et surtout pour les personnes qui s'identifient comme étant victimes de pas mal de situations, en l'occurrence pour celles que j'entends le plus, de violences intrafamiliales, il leur est très difficile d'entendre qu'elles puissent être à la fois victimes, réellement victimes, hein, objectivement, et en même temps qu'elles puissent devenir toxiques pour quelqu'un d'autre.
Oui, mais avec une même personne, est-ce qu'on peut être à la fois toxique et victime ?
Une relation, c'est toujours une... Enfin, on n'est jamais en relation seule, on est toujours en relation avec quelqu'un. Donc, on peut être à la fois toxique et victime, oui, particulièrement quand on pense... par exemple, à des situations où il y a de la dépendance affective, où il y a de l'interdépendance, où il y a... du harcèlement des deux côtés, puisque chacun va en fait jouer avec ses propres ressorts sans tenir compte vraiment de qui est l'autre. Donc à un moment, il va subir les ressorts et les mécanismes de l'autre, et à un autre moment, il peut être toxique. Quand on pense aux dépendants affectifs, on dit, alors c'est un mot qui est très courant hein, aujourd'hui, dans le livre, il y a certains mots comme ça contre lesquels je me bats, et pas que dans le livre d'ailleurs, parce que je trouve qu'on les utilise un peu à tort et à travers, mais la vraie dépendance affective, ce qui peut amener certaines personnes à consulter, ce qui peut amener certaines personnes à aller dans des groupes comme les DASA, donc dépendance affective et sexuelle anonyme, ce sont des personnes qui sont tellement en dépendance du lien affectif à l'autre et de ce que l'autre va renvoyer, qu'effectivement elles sont victimes de leur propre mécanisme, elles sont sans doute victimes de quelque chose qu'elles ont vécu pendant l'enfance ou l'adolescence qui les a déconstruits ou pas assez construits sur le plan émotionnel et affectif, mais dans le même temps elles peuvent devenir toxiques pour la personne avec laquelle elles sont en lien, parce qu'elles sont dans une exigence continue de réponse, de présence, de réassurance, de protection, de tout ce qui va leur donner le sentiment qu'elles existent et qu'elles sont aimées.
Oui, oui. Depuis 2020, depuis le premier confinement, vous observez qu'il y a une montée des souffrances psychiques, et évidemment, il y a aussi une montée du statut de victime. On se définit plus victime qu'avant.
Alors ça, je suis pas tellement certaine que ça soit complètement lié au confinement. C'est vrai que le confinement, le premier confinement, a développé les violences intrafamiliales, entre autres, pas que. Mais si on reste sur ce que j'observe le plus, les violences intrafamiliales ont été plus nombreuses. Il y a eu plus d'appels, de plaintes qu'avant le confinement. Je pense que c'est également lié au fait que quand on est au quotidien avec quelqu'un, du fait qu'on ait été enfermé, on se rend compte ou on ne supporte plus des mécanismes qu'on ignorait plus ou moins volontairement avant, parce qu'on sortait, on allait travailler, on avait une vie sociale pour beaucoup de gens. Il y a des situations où les personnes sont totalement isolées, mais on va dire dans la majorité des cas, on n'était pas confronté, et je dis bien confronté, à son partenaire et à ses enfants en permanence. Là, il a fallu réorganiser du jour au lendemain tout un mode de vie. Donc forcément, les relations se sont complexifiées et de nouvelles problématiques se sont posées avec le et puis les confinements. Après, je ne suis pas certaine que le fait de s'identifier ou se nommer victime soit lié qu'au confinement. C'est plus profond que ça. C'est, si on peut dire, la racine du mal, elle est beaucoup plus profonde que ça. S'entendre dire de soi-même que l'on est victime... ou entendre quelqu'un d'autre nous qualifier de victime, il y a encore pas si longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, c'était extrêmement difficile. C'est un mot qui est très violent, le mot victime, oui. Parce que ça veut dire d'une certaine manière, tu es faible ou tu n'es pas capable ou tu as un handicap. Et Dieu sait qu'en France, on a encore à travailler sur le regard qu'on porte sur le handicap et les personnes qui ont un handicap. Enfin, c'est un mot qui dévalorise beaucoup. Et il s'est complètement transformé dans sa compréhension. C'est-à-dire que là où il était dévalorisant, aujourd'hui, il est peut-être... glorifiant si j'exagère, en tout cas il est presque vu comme quelque chose de valorisant. Voilà, il y a une identité réelle qui existe avec le fait d'être victime. Je suis enfin quelque chose parce que je m'identifie comme victime. Et ça c'est assez récent, mais encore une fois quand je disais que la racine du mal elle est plus loin, on est quand même depuis 30 ans, 40 ans, force de dire 30 ans, ça en fait 40, enfin les 30 glorieuses, elles commencent à remonter un peu loin. On est tellement bercé d'immédiateté, bercé de narcissisme, et je ne dis pas pervers, hein, mais de narcissisme, bercé d'infantilisation, surprotégé, culpabilisé de tout, infantilisé toutes les deux secondes, qu'arriver à se construire de manière autonome et individuelle une identité, sans se détacher du groupe, est très compliqué.
Oui. Se définir comme victime, c'est positif pour une personne ou négatif ?
Les deux. Ça peut être très positif. Il y a un moment, pouvoir nommer la situation, donc pouvoir nommer l'état dans lequel on est, pouvoir nommer nos ressentis, nos émotions, c'est positif à condition qu'on en fasse quelque chose. C'est-à-dire que, moi, par exemple, si je prends dans ma consultation, les personnes qui... entendent qu'elles sont victimes, il va y avoir à peu près deux possibilités dans le temps. Il y a celles qui vont le transformer, donc qui vont agir en portant plainte, en allant consulter, en changeant de vie, en cassant un lien toxique, mais qui vont être dans l'action. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même très douloureux, mais en tout cas elles agissent, donc petit à petit elles reprennent une conscience de qui elles sont, et elles peuvent dire « je suis victime », et puis ensuite elles vont dire « je suis victime de un tel ou de telle situation », et puis petit à petit elles vont passer au passé. Donc ça ne reste pas un état figé. Et puis il y a celles qui vont entendre qu'elles sont victimes, et comme elles avaient un sentiment d'incompréhension, de solitude extrêmement profond, c'était une angoisse très profonde, de vide total, elles s'accaparent cette nouvelle réalité qui est d'être victime, nouvelle réalité pour elles, et elles n'arrivent plus à s'en détacher, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur latente et indicible qui est « mais si j'arrête d'être victime, j'étais tellement rien avant que je serai rien après, j'ai pas la force en fait de construire quelque chose ». Ça ne veut pas dire que ça va rester figé, mais pour elle, c'est plus compliqué. Mais donc, ça peut être positif dans la mesure où on se bat avec ce terme-là et on ne veut pas rester bloqué dedans. C'est négatif quand on en fait, au-delà d'être une identité, une espèce de porte-drapeau pour partir en guerre contre je ne sais qui ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'on
là,
se croit...
Là, on rentre sur le champ politique.
Politique, sociale, pas que, enfin politique, on va dire entendu au sens très large du thème, hein, pas la politique politicienne que l'on a au quotidien, mais au sens politique donc de la cité. Effectivement, si tout d'un coup on se dit je suis victime, donc j'ai le droit de porter la parole d'autres victimes sans avoir fait un travail sur soi, une réflexion profonde de ce qui a amené à être dans cet état de victime. Finalement, on ne porte aucune parole, on porte une émotion. Les émotions ont le droit de s'exprimer, mais de là à ce qu'elles permettent de construire une réflexion, c'est un autre chemin. Et c'est pour ça souvent que les paroles très victimaires ont du mal à être entendues, c'est qu'elles sont trop chargées d'émotions, et que si en face il y a un discours qui a tort ou a raison est plus axé sur la raison, sur la réflexion, bah ce sont deux paroles complètement différentes qui vont s'affronter et on ne peut pas les entendre.
Oui, oui. Et donc vous expliquez dans votre livre qu'on a tendance à avoir tout bon ou tout mauvais, on est victime, on est bien, on est gentil, on ne fait rien de mal, et puis en face il y a le méchant qui produit ou qui est l'héritier d'un système qui a fait du mal.
Ça, en tout cas, c'est un petit peu, je trouve, hein, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à voir ou à entendre, soit dans les médias, soit bon, bien sûr les réseaux sociaux, mais enfin les réseaux sociaux, heureusement, ne font pas trop la loi, pas encore trop la loi, j'espère que ça ne sera jamais le cas d'ailleurs. C'est intéressant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est un bon observatoire quand même de la pensée, de diverses pensées qui se partagent. Mais heureusement, la force ne fait pas la raison ou le poids ne fait pas la raison. Je crois qu'en fait, on a été petit à petit coupé de nos repères et coupé du droit à la réflexion. On n'est plus invité à la réflexion. Et si on n'est pas invité à la réflexion, on ne peut pas être dans la nuance. Et nécessairement, si on va mal, il faut bien que quelque chose justifie le fait qu'on aille mal. Alors, j'allais dire, quand on a la grippe, c'est facile, hein, c'est le virus. Quand on a eu un accident, c'est relativement facile. C'est de toute façon, on va trouver un responsable extérieur à nous. Mais quand on est dans ce qu'on traverse actuellement, c'est-à-dire des crises sociales, des crises existentielles, il faut bien trouver une raison à ce qui a provoqué cette crise existentielle. Et là, c'est plus des individus individuellement qui s'interrogent, c'est des groupes sociaux qui se créent ou qui se perpétuent et qui se questionnent. Et même s'ils sont capables, pour certains, heureusement, d'une certaine introspection, ils vont d'abord aller chercher une cause extérieure à eux. Donc nécessairement, on noircit. Alors encore une fois, je vous disais, on est beaucoup dans l'émotion aujourd'hui, et quand on est beaucoup dans l'émotion, on disproportionne complètement ce qui est extérieur à nous. Donc on voit tout en noir. Après, on peut mettre des nuances, et pas que des nuances de gris. Mais oui, je crois qu'on a quand même tendance à avoir peur d'être une mauvaise personne ou avoir peur de mal faire et à vouloir être une bonne personne et à vouloir bien faire. On projette le tort sur ce qui est extérieur à nous.
Oui, oui.
Mais on est conditionné comme ça aussi. Hein. Ça fait quand même 15 ans qu'on nous bassine à oser aller bien, oser avoir confiance, être fort. Vous rajoutez là-dessus des années d'éducation où il fallait être fort, il fallait être parfait, il fallait être bien élevé, il fallait être gentil. Où les hommes, les garçons n'ont pas le droit de pleurer parce qu'ils sont forts. Donc ils introjettent beaucoup. Forcément, ça crée des frustrations. Où les femmes devaient se comporter de telle et telle manière. Donc tout ça, ça a créé des distorsions importantes. Et forcément, il y a un moment où il fallait que ça explose. Je crois qu'on vit au niveau social, globalement, une crise identitaire comme l'adolescent, à un moment, le vit chez lui. Sauf que l'adolescent chez lui qui claque la porte au nez de ses parents en disant « Il y en a marre, vous comprenez rien, je suis malheureux », ça dérange personne, sauf les parents. Et encore, quand c'est toute une génération ou plusieurs générations qui sont dans cette impulsion émotionnelle de dire on n'en peut plus, on revendique autre chose, on a le droit à autre chose, on a besoin d'autre chose, mais que le discours n'est pas encore suffisamment solide pour être entendu, ça crée c'est plus des claquements de porte, c'est des explosions.
Oui, oui. Anne-Laure Buffet, on va continuer d'en parler. On va notamment voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Vous êtes l'auteur de « Tous toxiques, tous victimes » aux éditions de l'Observatoire. On revient dans un instant sur Vivre FM.
Vous écoutez « Vivre, c'est épatant » avec Carole Clémence.
Anne-Laure Buffet, auteur de « Tous toxiques, tous victimes » aux éditions de l'Observatoire, est notre invitée. Anne-Laure Buffet, vous parliez de crise identitaire au niveau social, d'impulsion émotionnelle. Il y a trop d'émotions, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas, il n'y a pas de dialogue possible. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, un exemple précis comme ça ?
Oui, je vais vous en donner. Je voudrais juste préciser, c'est tous toxiques, tous victimes, avec un point d'interrogation. Je le dis, hein, parce que c'est pas, je n'affirme pas que nous soyons ça, mais j'interroge. Donc, quant à la crise identitaire, oui et non, prise de conscience en tout cas qui amène à une crise, c'est ce qu'on voit entre autres aujourd'hui avec les mouvements féministes. Qui luttent contre les violences, entre autres sexuelles et sexistes. J'aimerais bien que ça soit les violences en général faites aux femmes, plus que stigmatiser un coup sexuel et sexiste, un coup conjugal, un coup psychologique. Je crois qu'il n'y a aucune violence s'il n'y a pas à l'origine de la violence psychologique. Donc, Ça, c'était une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a des prises de conscience sur les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, qui étaient... qui sont latentes hein, depuis très longtemps, depuis le MLF et avant le MLF, et ces inégalités ou iniquités que, en tant que femmes, nous subissons. Et je ne vais même pas dire que nous pouvons subir, hein, que nous subissons en étant conscientes ou pas, justement. Et aujourd'hui, nous en sommes de plus en plus conscientes. Donc aujourd'hui, nous revendiquons à raison le droit qu'un certain nombre de comportements, à défaut de les abolir, en tout cas soient condamnés ou condamnables, le droit à avoir une place plus importante que celle qui nous était réservée ailleurs, tout ça nous le revendiquons. Il y a certaines personnes, certaines femmes, et pas que des femmes, qui depuis longtemps réfléchissent sur la question, et même si elle n'était pas encore clairement formulée, clairement conscientisée, en tout cas, elle était là, et aujourd'hui, la parole est entendable. Et puis, il y en a d'autres, parce que elles ont pris conscience plus tard, parce que peut-être elles sont plus jeunes, parce que le système dans lequel elles ont grandi les empêchait complètement de réfléchir à cette question-là, dont la prise de conscience est beaucoup plus récente. Et parfois, ce sont d'ailleurs des personnes qui ont souffert et grandement souffert de violences. Et elles ont un besoin de réagir. Aujourd'hui, la parole est beaucoup plus facile, ne serait-ce qu'avec les médias, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, où on peut dire très facilement ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Et c'est là où je parle de crise identitaire, c'est-à-dire qu'avant d'avoir construit son propos, on affirme déjà son propos.
Oui.
Et on l'affirme comme étant une vérité absolue. Ce qui fait que toute parole qui va être contradictoire ne peut plus être entendue. En plus, moi, dans ma formation, avant d'être thérapeute, je suis juriste. Donc le principe du contradictoire, c'est un principe que qu'on m'a appris, qu'on m'a même rabâché. Et ce qui fait que quand il n'y a plus ce principe de contradictoire, lorsqu'il n'est plus du tout autorisé, quand nécessairement ce qu'on nous dit devrait être absorbé comme étant une seule et unique vérité, alors que les faits, l'histoire nous prouvent depuis toujours que ce qui est vrai aujourd'hui sera sans doute faux dans 15 ans et sera sans doute encore faux autrement dans 30 ans, c'est là où je me dis, il faut, avant d'affirmer un propos, il faut pouvoir avoir des arguments, et les arguments, on les construit avec la connaissance, avec l'éducation, avec la réflexion, avec ce dont malheureusement nous sommes privés depuis longtemps, puisque je ne vais pas aller taper sur l'éducation nationale, hein. J'aurais beau jeu de le faire, je ne suis pas ministre, Dieu m'en garde, je ne suis pas enseignante, Dieu m'en garde aussi et Dieu sait que je l'ai plein. Mais quand on soustrait la possibilité de la pensée, quand on soustrait la possibilité de raisonner, quand on soustrait la possibilité d'apprendre, ou quand on apprend bêtement, avec comme seul objectif la bonne note, le bon résultat, mais pas du tout l'autonomie de la pensée, on arrive à des personnes qui aujourd'hui, et c'est malheureux, ont des discours avec un champ lexical réduit, mais si le champ lexical est réduit, la parole est réduite, la pensée est donc réduite, le propos est donc réduit, le propos ne peut donc pas être entendu.
Oui.
Donc moi je milite depuis toujours, hein, et je continuerai au-delà des violences intrafamiliales, je milite pour que l'on forme, que l'on considère, que l'on prenne en attention et en cause chaque jour les enfants, quels que soient les enfants, parce que je pense que c'est le seul moyen qu'on arrive à construire réellement dans notre société quelque chose de beaucoup plus équitable.
Oui. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce que vous avez des pistes?
Hein, concrètement, il faut aller chercher l'individu. Faut aller chercher l'individu et chaque individu et ensuite chaque groupe d'individus dans ce qu'ils sont. Il faudrait pouvoir les entendre, mais il faudrait aussi... Il faudrait que chacun puisse entendre. Alors tout ça, ça frôle l'utopie, hein, par moment. Il faudrait que chacun puisse entendre que la parole de l'autre peut être à la fois toxique et intéressante.
Oui.
Ça n'est pas parce que quelque chose nous agresse qu'il n'y a pas un intérêt. Donc ce qui nous agresse, c'est que ça va taper une de nos blessures, une faille, une fragilité, un manque, et on a le droit, c'est subjectif, mais on a encore le droit, heureusement, à notre subjectif. Mais une fois qu'on arrive à se dire, ça c'est ma blessure, donc je l'entends, mais je la mets de côté, mais en même temps je vais travailler le propos dans ce qu'il a de rationnel ou de construit, on peut revenir à quelque chose de plus objectif, de fait plus apaisé, de fait on peut commencer à avancer. Là aujourd'hui, encore une fois, c'est je comprends toutes les revendications qu'il peut y avoir, je comprends parce que on est humain, on est fragilisé, on est empoisonné à l'urgence, à la peur et aux injonctions paradoxales, particulièrement depuis un an et demi, qu'on essaye de se débattre avec tout ça, tout en se disant il faut garder le sourire, donc c'est compliqué. Mais tout ça, ça aiguise encore plus des revendications, tout en étant détaché sur le papier, ça les aiguise encore plus parce qu'il y a d'autant plus ce besoin de s'exprimer, et ce qui fait que quand une personne qui en fait va exprimer des angoisses profondes parce que chez elle, elle est maltraitée, parce qu'elle a peur d'un entourage qui peut être violent, parce qu'au travail, elle subit du harcèlement, mais quand elle l'associe à d'autres paroles qui ne sont pas les siennes et qui correspondent peut-être pas aux siennes, ça fait un discours qui est complètement dissonant. Il y a autre chose aussi, c'est que je l'évoque dans le livre, on fonctionne tous avec des biais cognitifs, heureusement, ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de système de pensée qui s'est mis en place, heureusement. Mais si on est persuadé de ne pas avoir ces biais-là, c'est-à-dire que si on est persuadé d'être hyper ouvert à tout le monde, on se trompe. Et on devient toxique avec les autres, et on devient toxique avec soi-même d'ailleurs, puisqu'on se ferme à toute autre proposition. Et c'est toutes ces parts-là de la société qui me dérangent beaucoup aujourd'hui. C'est comme si on avait, encore une fois, ça ne s'est pas fait en 2 ans, et ce n'est pas le Covid, et ça ne s'est pas fait en 10 ans. Mais c'est comme si depuis... Oui, qu'il y a une surconsommation, une surconsumérisation de tout, une hyper-marchandisation de tout, comme si on... plus la mondialisation, comme si petit à petit, on avait laissé s'effilocher, se distendre complètement, et la conscience de nous, et la conscience de l'autre, et la conscience du temps, et la conscience de la connaissance, et on ne fait que répondre. Autrefois, on prenait le temps, on avait un coup de téléphone, si on n'était pas là, on n'était pas là. Après, on a eu le répondeur, appareil absolument magique. Alors, je me souviens très bien du répondeur chez mes parents quand il est arrivé. Cette boîte qui enregistrait, c'était merveilleux quand même.
Oui.
C'est très vite devenu oppressant. Mais sauf que dans le même temps, on est passé au début du téléphone portable. Et puis maintenant, si on n'a pas un téléphone portable, on est regardé comme un dinosaure. Hier, je regardais l'épisode d'une série, pas vieux l'épisode, hein, il date de 2010. Leur téléphone, c'est la préhistoire du téléphone portable. Donc c'est assez drôle de voir comment ça a évolué. Sauf qu'aujourd'hui, dès qu'on reçoit un SMS, il faut répondre. Dès qu'on a une notification, il faut la lire. Dès qu'on a un mail, quelle que soit l'heure, il faut répondre au mail. Sur les réseaux sociaux, entre autres sur WhatsApp, Facebook, si on ouvre un message, il y a marqué que c'est vu. Mais c'est terrible, cette injonction, puisque c'est vu, est-ce que j'ai le temps de répondre ou est-ce que la personne va voir que j'ai vu son message, mais comme je ne réponds pas, je la mets dans l'attente, mais peut-être... Ça crée des nœuds au cerveau à longueur de temps. On n'a plus du tout le droit de se penser soi, on ne peut se penser que par rapport à l'autre. Et comme on est dans des systèmes épuisants, l'autre devient dangereux pour nous, devient agressif pour nous. Et forcément, les revendications, elles explosent encore plus... avec tous ces phénomènes-là.
Oui, oui. Anne-Laure Buffet, on va faire une petite pause. On va revenir et expliquer qu'est-ce que la toxicité, comment savoir si l'on est victime ou toxique dans un instant sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Tous toxiques, tous victimes, avec un point d'interrogation. C'est le livre d'Anne-Laure Buffet, notre invitée aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Vous expliquiez que on peut être victime, on peut être toxique, on peut être les deux à la fois, selon ses relations personnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire... Comment peut-on savoir si on est victime et si l'on est toxique ?
Alors, je vais rester sur la victime. Il y a l'aspect subjectif et il y a l'aspect objectif. Objectivement, on a un cadre légal. législatif qui fait que on est capable de, quitte à consulter un avocat, de dire au regard de la loi, je suis victime d'un certain nombre de comportements. Ça, c'est très objectif même. Subjectivement, c'est pas parce que la loi dit là, ça ne rentre pas dans le cadre légal. Donc on peut pas vous qualifier de victime, où il n'y a pas de raison de porter plainte, etc. Ce n'est pas pour ça que subjectivement, on n'est pas victime d'une situation. Parce que ça fait écho à des choses qu'on a déjà vécues, parce que ça réveille un traumatisme ou ça en crée un, parce que on est dans l'incompréhension de nos modes de fonctionnement. En tout cas, on n'est pas capable de répondre sur un plan égalitaire ou équitable ou simplement d'adulte à adulte à une autre personne. Donc on peut être victime. La seule chose, et ça c'est extrêmement compliqué à entendre pour les personnes qui sont victimes, particulièrement dans la sphère intrafamiliale, donc je vais mettre une mesure de précaution, ce que je dis n'est pas une culpabilisation ni une agression pour personne, mais si l'on se retrouve victime, particulièrement dans le couple, d'un conjoint ou d'une conjointe toxique, c'est que la relation, ce que l'on attachait, nous, futures victimes, à la relation, au début de la relation, allait nous satisfaire à un endroit. Parce que ça allait réparer un manque, enfin combler un manque, ça allait réparer une faille, on pensait que ça allait le faire, on a idéalisé le lien et on a idéalisé l'autre. Et on lui a, à ce moment-là, donné un pouvoir. Alors bien sûr, on ne va pas tous passer notre temps à aller chez des thérapeutes pour s'assurer qu'on a bien les curseurs au bon endroit et que l'on va bien. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on apprenne, entre autres aux enfants, à se dire quand quelque chose me dérange, hein, l'autre n'a pas forcément raison. Si quelque chose me dérange, ça me dérange et c'est tout de suite que je dois en parler.
Oui.
Et c'est tout de suite que je dois entrer dans la communication avec la personne qui fait que je suis dérangée. Si elle l'entend, si ça peut se modifier, si ça peut être corrigé, tant mieux. Si elle ne l'entend pas, accordons-lui le bénéfice du doute, peut-être que la première fois, elle ne peut pas l'entendre. Deux fois, à la deuxième fois, elle doit l'entendre. Et c'est tout de suite qu'on doit le dire et pas chercher des excuses. Et ça, c'est un mécanisme chez les personnes qui se retrouvent victimes de violences intrafamiliales qui est extrêmement fréquent, c'est d'aller chercher des excuses et de dissimuler, d'ignorer, d'être dans le déni de leur propre faille en allant chercher des excuses à l'autre, en disant « oui, mais la vie est compliquée, mais il a eu trop de travail, mais il est quand même gentil, mais sans lui, qu'est-ce que je serais ?» mais, oui, mais le « mais », d'accord, alors on va retirer les « mais », il reste « j'ai mal ». Si on retire les « mais », il est quand même gentil, « j'ai mal ». Maintenant, je vais m'autoriser, je vais essayer de le dire. Si je n'arrive pas à le dire directement à mon conjoint, je vais peut-être aller voir mon médecin, je vais peut-être aller voir un thérapeute, je vais peut-être en parler à un ami, je vais peut-être en parler à un parent. Je vais dire, voilà, j'ai mal. Et essayer d'envisager tous les scénarios possibles. Est-ce que je peux le dire? Pourquoi je ne peux pas le dire? Comment je peux le dire? À quel moment je peux le dire? Il y a un moment, quand on se retrouve à chaque fois confronté à un mur, il vaut mieux essayer de se faire aider si c'est besoin, mais de se faire aider pour partir.
Oui, oui.
On se cogne à un mur, hein, on ne le casse pas.
Un conjoint violent, il est capable d'entendre quand on lui dit « tu me fais mal, tu me fais souffrir », il est capable de changer ?
Pas en pleine crise, ça c'est certain. Si vous allez dire, mais parce qu'on est tous pareils, pour le coup, violent ou pas violent, vous allez dire à quelqu'un qui est en pleine colère « calme-toi », c'est pile le truc qu'il n'y a pas à dire, quoi. Ça va démultiplier sa colère, donc il ne faut surtout pas exacerber. Mais si on est avec un conjoint, alors pareil, moi je travaille surtout les violences psychologiques, si on est avec un conjoint violent, qu'on considère violent, en tout cas on ressent de la violence, il faut tenter de lui dire. Bien sûr, les personnes peuvent changer, pas toutes, mais il y en a qui peuvent changer, il y en a qui ont été... Je ne vais pas dire élevée à être toxique, mais c'est ainsi qu'elles se sont construites en réaction par rapport à un modèle éducatif, par rapport à une violence qu'elles ont pu elles-mêmes vivre. Mmh. Je ne cherche pas à dédouaner quelqu'un, je ne cherche pas à en blâmer un autre. Hein, c'est, Il faut garder justement du recul et une certaine neutralité pour pouvoir travailler ces questions-là. Mais heureusement qu'il y a des prises en charge pour les auteurs de violence, parce qu'il y en a qui réalisent et qui réalisent vraiment que les mécanismes avec lesquels ils fonctionnaient étaient destructeurs pour l'autre et ils n'en étaient pas conscients. Et on peut rééquilibrer des situations.
Et donc ils ont pu changer et avoir...
Ils ne changent pas, ils évoluent. Ils comprennent leurs mécanismes, ils comprennent ce que ça fait sur l'autre. Donc ils mettent en place autre chose. C'est long, hein, ça ne se fait pas radicalement. Si vous allez voir un conjoint violent, que vous lui dites, là, tu vois, ça ne me convient pas parce que ça me fait mal, ça me blesse, ça m'agresse, je ne me sens pas bien. Et que la personne vous dit, j'ai tout compris, t'inquiète pas, demain j'ai changé. Là, c'est la garantie qu'elle ne changera pas.
Oui.
C'est juste une promesse en l'air, comme un enfant qui va dire à son parent, alors qu'il vient de renverser un verre, oh, pardon, je ne recommencerai plus. Oui, sauf qu'on peut toujours recommencer. On peut tous être amené à renverser des verres dans notre vie. Donc, faut surtout pas s'attacher à cette parole-là. C'est autant une victime, quand elle travaille sur elle, c'est long, c'est très long de sortir d'un état de victime.
Oui.
Autant sortir d'un état de toxique, c'est très long. Ce qui fait que forcément, il y a des moments où la personne toxique qui en prend conscience, qui va travailler sur elle, qui va modifier les choses... Elle va être rattrapée par des mécanismes, par moment. Et en face, elle ne change pas. Si, elle change, elle évolue. La personne victime va être rattrapée par ces mécanismes, par moment. Et elle-même, elle va s'auto-flageller en se disant, ça allait mieux, puis j'ai rechuté. Oui, mais c'est pas grave, c'est qu'une rechute, on avance.
Alors là, on parle du cadre familial. Au travail, par exemple, comment savoir si l'on est toxique avec un collègue, avec un employé? Comment se définir? Comment savoir jusqu'où aller? C'est compliqué.
Il y a un cadre au travail. Le cadre du travail, même s'il est fluctuant, même si selon les structures dans lesquelles on travaille, parce que bien sûr, si on travaille dans une énorme entreprise ou dans une toute petite structure, c'est pas la même chose. Mais dans les énormes entreprises où il y a 20 000 personnes, on n'a pas 20 000 interlocuteurs par jour. C'est pas vrai. On travaille finalement en petite équipe à chaque fois. Donc, c'est d'abord être conscient de ce cadre-là. C'est être conscient que le travail est un cadre, justement, avec des rapports hiérarchiques, que la hiérarchie, en principe, n'a pas le droit à tout, que les subordonnés n'ont pas le droit à tout, qu'il y a des lieux pour la parole, que la parole doit être entendue, que l'on ne sera pas un meilleur employé sous prétexte qu'on va se gâcher la vie à rester plus longtemps au travail, qu'on ne sera pas hyper fort parce qu'on va juste respecter nos horaires de travail. Il y a des horaires. Alors oui, parfois il y a des urgences, il faut déborder, d'accord. Un patron qui vous met dans l'urgence, c'est un patron qui vous harcèle. S'il est capable de l'entendre, peut-être que lui-même il est débordé par autre chose, s'il est capable de l'entendre parce que vous lui en parlez, très bien. S'il n'est pas capable, il faut entendre que ça devient du harcèlement et que ça crée une souffrance au travail.
Oui, oui.
Il y a de plus en plus de lieux d'écoute, il ne faut pas hésiter à aller parler. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire là, ce n'est pas vraiment le cadre du travail qui fait que vous êtes en difficulté, sauf que vous avez plus de liberté au travail de le ressentir que chez vous, puisque la contrainte, quand on est dans la famille, elle est encore plus forte. Donc, ça s'exprime au travail. C'est toutes ces interactions qui sont longues et difficiles à décrypter, mais toutes ces interactions, il ne faut jamais oublier qu'en amont, on a toujours un cadre. Et que dès qu'on déborde du cadre, on commence à être toxique. Quand on prend le cadre thérapeutique, on a un cadre. Alors on peut plaisanter en séance avec les personnes qui consultent. On peut parfois être dans une forme d'amicalité parce qu'ils traversent des moments dans leur vie où on va non pas déborder du cadre, mais on va être... en dehors du questionnement thérapeutique, parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a un décès, parce qu'il y a une promotion. Donc on peut l'entendre et se réjouir avec eux. Mais il y a un cadre. Un thérapeute qui va dire maintenant, il faut faire comme ci, comme ça, et entre guillemets, pas autrement, avec moi, et sous-entendu que avec moi, vous allez aller bien, vous allez trouver la réponse. C'est telle méthode qu'il faut suivre et pas une autre. Donc, la personne qui veut consulter n'est pas entendue, on casse le cadre thérapeutique, elle ne peut pas rester dedans, sinon elle se retrouve sous emprise, dans un système où elle est victime, parce qu'elle y va comme personne fragilisée et elle va se retrouver coincée par un fonctionnement qui est pour le moins très dysfonctionnel.
Alors là, on parle des personnes qui peuvent être toxiques pour leur entourage, mais qui ne sont pas malveillantes. On a souvent tendance à essayer de trouver des pervers narcissiques, c'est-à-dire des personnes malveillantes volontairement, un petit peu partout. Comment les dénicher? Comment savoir si son collègue en est vraiment un ou pas?
Arrêtez de vouloir les dénicher. Je ne le dis pas à vous en particulier. Je le dis, un cri du cœur. Il faut arrêter d'aller chercher le pervers narcissique partout. C'est devenu mon slogan pour 2021 avec un grand désespoir de ma part. Si tu n'as pas eu un pervers narcissique à 50 ans, tu as raté ta vie. Oui. Parce qu'on en voit partout, on en entend partout. Moi, je vois arriver des personnes qui me disent, en venant à la séance, j'en ai vu 3 dans le métro. Ah bon, ils faisaient comment? Ils avaient un panneau autour du cou, il y avait un badge qui clignotait. Bonjour, je suis pervers narcissique. C'est pas ça. Enfin, la perversion narcissique telle que Racamier, pour revenir à ce qu'est la perversion narcissique, donc le psychanalyste Paul-Claude Racamier qui a défini ce qu'est le fait d'être PN, puisqu'on dit comme ça maintenant, dans fin des années 80, c'est extrêmement précis, c'est l'équivalent ou presque du psychopathe chez les anglo-saxons.
Ah oui.
Pour nous, le psychopathe, alors tout de suite on voit esprit criminel, il va falloir profiler, oui. C'est la personnalité asociale ou antisociale, c'est plus que borderline, c'est plus que violent, et c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux et parfois sans aucun passage à l'acte parce que il va se contenter d'être dans la destruction psychique. Alors se contenter, j'ai mis des guillemets, hein, à l'oral ça s'entend pas. Mais aujourd'hui, on en a fait tellement une espèce de tête de gondole de la psychologie. On l'a tellement retrouvé partout, alors qu'il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler. Hein. Là, depuis 5 ans, c'est le pervers narcissique. On veut vendre un bouquin ou on veut vendre un journal. On met pervers narcissique dessus, ça marche très bien, mieux que les régimes. Ah, c'est super. Mais sauf que forcément, une personne qui est en souffrance et qui tout d'un coup identifie pourquoi elle est en souffrance, parce qu'on lui propose une solution, elle va plus penser à elle. Déjà, elle a du mal à penser à elle, elle n'a pas de confiance en elle, elle n'a pas d'estime d'elle, elle n'a pas d'affirmation. Donc déjà, elle n'arrive pas à penser à elle. Et là, tout d'un coup, on lui dit, en face, en fait, il y a un pervers narcissique parce que c'est tel et tel et tel comportement. Elle absorbe le truc. Et plutôt, puisque ça joue sur ses émotions, plutôt que d'essayer de se dire, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que je vais aller consulter pour ça? Est-ce que je vais aller m'occuper de moi? Elle va aller chercher la confirmation que la personne avec laquelle elle vit est bien un pervers narcissique, avec ce côté, pour le coup, pervers, qui est que le pervers narcissique, tel qu'il est réellement existant, étant extrêmement dangereux, là où elle se dit « je vais chercher une raison de fuir », elle trouve involontairement une raison de rester, par peur d'être tuée.
Ah oui, ça va jusque-là?
Ah oui, mais attendez, moi si je vous dis, il y a 2 solutions. Là, il y a 2 solutions. On est dans un studio. Soit vous restez dans le studio, alors vous allez consciencieusement sécher toute la journée parce que je vous laisserai peut-être une bouteille d'eau, mais vous allez sécher sur place. Hein. Soit vous sortez du studio, mais dehors, il n'y a ni à boire, ni à manger. Je vous prends votre téléphone, vous ne communiquez plus avec personne. Vous allez faire quoi entre les deux? Vous allez rester dans le studio.
Et oui.
Si je vous dis, vous allez mal... Vous venez consulter, vous allez mal, je vais m'occuper de vous, on va en parler ensemble, on va construire quelque chose ensemble, on se concentre sur vous. La personne, elle est considérée. Si je lui dis, vous vivez avec un pervers narcissique, vous êtes isolé, parce que le pervers isole. Vous n'avez plus d'amis, vous êtes coupé de votre famille, vous n'avez plus de travail, vos enfants vont mal, vous avez des problèmes de santé, il y a de la violence économique par derrière, il y a de la violence institutionnelle par derrière, mais il faut que vous partiez. Vous allez vous dire, non, je reste. Je reste, parce que au moins je sais comment ça fonctionne. Puisque si je sors, finalement, il risque de me tuer, je suis déjà en mauvaise santé, ou en tout cas pas très en forme, je n'aurai plus d'argent, or notre société fonctionne à l'économie, malheureusement, et je ne serai pas entendue.
Mais oui.
Ah bah, je vais rester avec mon pervers.
Oui.
Alors moi, je suis désolée, mais il y a certains cas, certains, sur 10 ans d'exercice, si je peux le dire ainsi, certains cas où j'ai dit, là, vous êtes réellement face à un pervers narcissique. Donc il faut monter une stratégie colossale autour. Mais dans les autres cas, c'est, je ne veux pas savoir, c'est peut-être... Appelez l'EPN si ça vous fait plaisir, c'est peut-être un jaloux possessif, c'est peut-être éventuellement un borderline, parfois c'est de l'alcoolisme qui cache autre chose, ça peut être un bipolaire, ça peut être, et je juge personne, hein. Il y a tant et tant de raisons de faire souffrir l'autre, il y a tant et tant de moyens de faire souffrir l'autre, c'est juste maintenant on se concentre sur qui ? On se concentre sur la personne qui vous fait du mal ou on se concentre sur vous ? Quel intérêt à se concentrer sur la personne qui vous fait du mal pour qu'elle aille mieux ? Quelle preuve on a qu'elle va aller mieux ? En revanche, vous, est-ce que vous voulez aller bien ? Est-ce que vous voulez rester seule à sécher avec cette bouteille d'eau ou aller dans la rue ? Je vous ai tout retiré en apparence, mais en fait, comme vous êtes dans la rue, vous êtes libre. Hein ? Et la question, elle est là. Est-ce qu'on s'occupe de vous ou est-ce qu'on s'occupe de se confirmer à chaque séance que comme il a fait ça aussi, c'est réellement un pervers narcissique. La question est là. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Hein. Le départ du livre, il est sur le pervers narcissique, sur le harcèlement, sur l'emprise. Parce qu'il faut arrêter d'utiliser un mot, de s'en faire un étendard en disant, voilà, je sais ce que je subis. D'accord, on en fait quoi ? L'emprise, c'est extrêmement complexe comme système. Il est indispensable de comprendre qu'une personne qui nous met sous emprise... s'est servi de quelque chose que l'on a en nous. C'est ce qui permet de sortir de l'emprise. Et c'est tous ces mécanismes-là que j'ai essayé un peu de montrer, tout en disant attention aux mots qu'on utilise, attention aux comportements que l'on a. On peut être extrêmement fragilisé, et être très toxique parce qu'on réclame trop. Notre société nous invite à ça, malheureusement. Elle nous narcissise toutes les deux secondes. Il faut être sur Instagram et mettre une photo de nous en train de manger un plat de pâtes, ce qui est tout à fait passionnant.
Effectivement,
oui. Non, mais c'est... Et on est dans ces urgences-là. Et moi, j'essaie de dire, respirons un peu, soufflons un peu, allons mettre, comme les enfants, allons sauter dans une bonne flaque d'eau et allons écouter le chant d'un oiseau. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, j'en suis où en fait ? Et maintenant, je veux quoi pour moi ? Donc, qu'est-ce que j'ai comme moyen ? Qu'est-ce que je me donne comme moyen ? Vers qui je me tourne ? Est-ce que j'accepte d'avoir mal ? Est-ce que je vais accepter d'avoir parfois un peu plus mal pour pouvoir aller mieux ? L'exemple que je prends le plus, alors je sais que l'heure tourne, peut-être qu'on va finir sur cet exemple-là.
On va s'arrêter, oui.
Mais l'exemple que je prends le plus, c'est quelqu'un qui a souffert d'un traumatisme psychique, psychologique, affectif profond, a l'impression de ne pas s'en sortir. Quelqu'un qui a souffert d'un accident de la circulation très grave va mettre parfois des mois, peut-être des années pour la rééducation. Ça va aller mieux, il y aura des rechutes, il va aller de mieux en mieux et on l'entend. Quand on a souffert d'un traumatisme psychique, émotionnel, c'est une rééducation. C'est une rééducation de l'émotion, c'est une rééducation de l'âme et de la personne. Mais c'est une rééducation. Il faut accepter de rester humain et de rester fragile et vulnérable parce que c'est ce qui nous rend fort.
Et il faut aller voir un thérapeute, c'est ça ?
C'est mieux.
C'est mieux.
Ouais, c'est mieux. Je ne vais pas faire de la publicité pour la thérapie à tout prix. Ce qui est certain, c'est que si on croit qu'on s'en sort seul, on se trompe. Parce que la parole de l'autre, même si elle ne nous convient pas, nous offre un autre éclairage. Donc elle est importante.
Et vous êtes importante aussi, Anne-Laure Buffet, vous étiez notre invitée, tous toxiques, tous victimes, avec un point d'interrogation aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.
Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.